Nous allons partager ensemble quelques messages sous le thème de l'empreinte des patriarches. Les patriarches ont marché sur terre il y a bien longtemps, mais leur empreinte marque encore l'humanité. Parce que nous-mêmes, nous marchons dans la trace des patriarches. Abraham, Isaac et Jacob. Ils étaient des hommes de la même nature que nous. Ils ont chacun vécu une vie pleine. Mais ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur nous sert encore d'enseignement et de référence à nous qui croyons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par Abraham. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous continuerons avec Isaac et Jacob ensuite. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, à la fin du chapitre 21 et au début du chapitre 22. Genèse 21, verset 33, exactement. Abraham planta des tamaris à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Et Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Si je dois laisser un titre à ce message, je dirais quand Dieu veut nous ramener au cœur de son projet. Au moment où nous rencontrons Abraham, c'est un homme apaisé, un homme comblé, un homme au sommet de ses espérances et des bénédictions reçues de Dieu. C'est un homme qui avait traversé bien des épreuves, connu bien des agitations depuis qu'il avait quitté Charan, le pays de ses parents, pour aller en Canaan, cette terre vers laquelle Dieu voulait le conduire. Bien des épreuves, bien des aventures, je dirais même. Nous rappelons sa fuite en Égypte, nous rappelons les événements avec Lot, comment il est allé combattre les rois qui avaient capturé Lot. Nous rappelons comment il a prié pour la délivrance de Lot au jour où Dieu est venu juger Sodome et Gomorre. Nous rappelons ces événements avec Agar et Ismaël. Nous rappelons aussi toute cette vie qui fut bien chargée, bien remplie, jusqu'à ce qu'il finisse par arriver dans le pays de Guérar, dans le sud de Canaan, faire alliance avec le roi de Guérar, Abimélec. Et puis la Bible nous dit « planter des tamaris ». Planter des tamaris sous lequel il trouva du repos, de la fraîcheur et sous lesquels il louait le Seigneur, l'Éternel Dieu. Abraham était donc un homme comblé, non pas simplement en troupeau, non pas simplement en richesse, en serviteur, mais ce qui a fait la joie de sa vie, le rire de sa vie, le sourire de sa vie, c'est cet enfant qui était là à ses côtés. L'enfant de sa vieillesse, Isaac, que Dieu lui avait accordé dans sa grâce. Abraham était un homme béni, parce qu'Abraham avait cru en Dieu, avait cru dans sa parole et avait marché fidèlement. Le Seigneur l'avait dit, tu seras béni et ton nom deviendra grand. Abraham avait cru, Abraham avait persévéré, Abraham avait été béni. Et ainsi le voilà donc à Guérar. Et ainsi le voilà donc en train de planter des tamaris. Je veux m'arrêter un instant sur ce verbe planter. Parce que pour Abraham, il signifie quelque chose d'important. Jusque-là, Abraham avait été un nomade. Jamais il ne s'était vraiment établi dans un endroit. Il avait peut-être planté sa tente, mais jamais construit une maison, jamais vraiment pris de racines. Et quand il devait bouger, il emportait sa tente et le campement et ils allaient plus loin. Mais là, il est dit qu'il a planté des arbres. Il y a quelque chose de fort dans cette image. Comme prendre racine dans une terre. Comme dire, ici je m'installe. Ici, c'est plus qu'un campement, mais ça devient le lieu dans lequel je m'arrête. Et Abraham a planté les tamaris. Et il semblerait, d'après le texte, qu'il ait eu le temps de voir les tamaris grandir pour profiter de leur fraîcheur, de leur parfum et de leur ombrage. Il y avait donc quelque chose qui s'était produit dans le cœur d'Abraham. Il ne voulait plus être à ce moment-là ce nomade, mais il semblerait qu'il voulait devenir quelqu'un qui se sédentarise et qui dise finalement maintenant, ici je suis bien. Dans ce lieu, tout est bien et c'est là que je veux demeurer. Et le lieu était apparemment tellement bon, les tamaris tellement agréables, que le texte nous dit qu'il y demeura, qu'il y séjourna longtemps. Qu'est-ce que longtemps? Nous ne savons pas trop, mais apparemment, ce fut un temps assez long et peut-être même vraiment long. Alors maintenant, je voudrais me retourner vers le Seigneur et nous rappeler quel est le projet de Dieu à l'égard d'Abraham. Est-ce que le projet de Dieu à l'égard de cet homme était simplement de bénir Abraham? Si c'était le cas, alors le projet était atteint, achevé, fini, parce qu'Abraham était un homme comblé. Mais nous savons que le projet de Dieu était bien plus vaste à l'égard d'Abraham. Non seulement Dieu voulait bénir Abraham, mais Dieu voulait faire d'Abraham un vase de bénédiction, une source de bénédiction pour toutes les nations. Et c'est alors que Dieu va se rappeler à Abraham. Pour le ramener dans son projet, il va lui donner deux choses, deux objectifs. Il va lui donner un rendez-vous et il va lui donner aussi une parole. Parce que le Seigneur ne voulait pas que Abraham se contente d'avoir été béni, mais qu'il devienne à son tour cette bénédiction. Et cela, ça nous amène à réfléchir sur les différences qu'il peut y avoir entre les projets de Dieu pour notre vie et nos propres projets de bénédiction. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, remplis ma vie. Et nous pourrions oublier que Dieu veut agir à travers notre vie. Abraham n'était pas une fin en soi. Tout comme Israël n'est pas une fin en soi. Tout comme nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas une fin en nous-mêmes, mais nous sommes des moyens. Abraham était un moyen. Israël est un moyen. Nous sommes un moyen par lequel le Seigneur, l'Éternel, sera glorifié. Abraham a été béni, mais Dieu voulait plus. Il voulait qu'il soit en bénédiction. Pourtant, il semblerait qu'Abraham soit plutôt rentré dans une sorte de pré-retraite spirituelle. Qu'ils étaient bons, ces tamaris. Leur ombre, leur fraîcheur, leur parfum. Et puis là, sous ces arbres, il pouvait invoquer l'Éternel, Dieu de l'éternité. Dieu de l'éternité. Comme si, finalement, Abraham se disait, voilà, ma course est achevée, tout est bien pour moi. Et la seule chose que j'attends maintenant, que je désire, c'est l'éternité. Et il semble donc qu'il ait longtemps adoré le Seigneur, le Dieu de l'éternité, comme s'il goûtait déjà à l'éternité, comme si déjà il régnait, comme si déjà tout était bien, tout était parfait pour lui. Et qu'en est-il de nous? Peut-être beaucoup me diront, mais moi je suis encore au début de ma marche avec Dieu. Et d'autres diront peut-être, j'ai planté quelques tamaris. Oh, il peut nous arriver rapidement de planter des tamaris, de dire, Seigneur, là où je suis, avec toi, c'est bien. Tu m'as béni, tu t'es occupé de moi, j'ai eu des épreuves, j'ai eu des difficultés, et puis tu as agi dans ma vie. Et maintenant, je suis dans une espèce d'état satisfaisant. Seigneur, ce travail, c'est pour moi un tamaris. Ma famille, c'est pour moi un tamaris. Ce lieu d'habitation, c'est pour moi un tamaris. Peut-être même cette église, c'est pour moi un tamaris. Et là, je suis bien. Là, je suis au frais. Là, je suis à l'ombre. Et là, je peux t'adorer, Seigneur. Ressemblons-nous un peu, beaucoup, à Abraham, satisfait de nos vies, de nos grâces, nous nous établissons, nous plantons, tout en continuant à adorer Dieu. Nous sommes comme Pierre sur la montagne qui disait qu'il est bon d'être là. qu'il est bon d'être là, Seigneur. Seulement, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans ce texte, dans cette espèce de tableau bucolique, idyllique, c'est l'absence de Dieu, plus exactement l'absence de la parole de Dieu. Pendant des années, peut-être Abraham a invoqué le Dieu d'éternité, à l'ombre de ses arbres, mais Dieu, lui, Dieu, oh, je crois que Dieu était présent avec Abraham, mais par contre, il semblerait qu'il n'ait pas beaucoup parlé. Abraham parlait beaucoup à Dieu, mais Dieu lui parlait beaucoup moins. Que faisait le Seigneur ? Peut-être laissait-il à Abraham un temps de repos, un temps de réjouissance ? C'était l'homme qui avait marché par la foi, et maintenant il était béni de toutes ses grâces, de toutes ses bénédictions, c'est vrai. Mais je crois aussi que Dieu se réservait le droit de pouvoir aller chercher Abraham sous son arbre. Mais il attendait le temps voulu. Et ce temps, nous le voyons au début du chapitre 22, lorsqu'il est dit « après ces choses ». Après ces choses. Il y a eu donc des premières choses et il y a des secondes choses. Les premières choses, c'est tout ce dont nous avons parlé concernant Abraham, toute cette première partie de sa vie, ses voyages, ses péripéties, ses combats, sa foi. Tout ceci a servi à préparer Abraham. Toutes les bénédictions qu'il a reçues de Dieu, ça a été comme un temps d'apprentissage, parce que Dieu avait d'autres choses. Dieu a laissé Abraham jouir de toutes ces bénédictions parce qu'il avait en vue quelque chose d'autre pour lui. Et pendant toutes ces premières choses, Abraham a appris que Dieu honore sa parole. Il a appris à connaître le caractère de Dieu. Il est devenu l'ami de Dieu. Il a appris à se fortifier, à grandir dans la foi. Parce que les choses qui allaient venir après ces premières choses allaient encore l'amener plus loin dans la foi et dans la relation avec le Seigneur. Alors je vous l'ai dit, je crois que Dieu a laissé un temps de repos, j'allais presque dire de répit à Abraham, tout en se réservant le droit d'aller le visiter sous son arbre. Et c'est arrivé un jour. Un jour, Dieu a soulevé les branches des tamaris pour appeler Abraham. Abraham ! Et Abraham a répondu, me voici. Cet homme comblé, cet homme riche, puissant, influent, n'en restait pas moins un serviteur disponible à la voix de Dieu. Me voici. Comment répondrions-nous nous-mêmes ? Comment réponds-tu toi-même à l'appel de Dieu ? Nous créons notre vie, nous plantons nos tamaris, Dieu nous bénit. Mais voilà qu'un jour, le Seigneur vient nous visiter sous notre arbre. Et il nous appelle par notre prénom. Qu'allons-nous lui dire ? Oh Seigneur, ça fait longtemps que je t'invoque là. Hein ? C'est bon d'être ici, c'est bon d'être sous cet arbre. Et Dieu nous dit, attends, oh, viens, viens, viens. Seras-tu capable, comme Abraham, de répondre « me voici » et de sortir de dessous ton arbre ? Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Je dirais qu'Abraham ne savait pas ce qui allait venir. Bien sûr, nous savons ce qui est arrivé ensuite. Et quand nous répondons « me voici au Seigneur », nous ne savons pas ce qui va venir. Mais nous croyons que Dieu est fidèle et que Dieu honore toujours sa parole. Alors, ce qui nous surprend, c'est que, regardez, au début du chapitre 22, Dieu l'appelle pour le mettre à l'épreuve. Alors, ce n'est pas à dire que Dieu a voulu le châtier, le punir, parce qu'il serait trop longtemps resté sous son arbre. Non, si Dieu l'appelle, c'est parce qu'il désire perfectionner sa foi. Ok, Abraham, tu t'es bien reposé. Ok, mon frère, ma soeur, tu t'es bien reposé, là. Tu as pris le temps, après bien des péripéties, des combats, des épreuves, des maladies, des difficultés, tu as pris le temps d'être comme Abraham sous ton tamaris ou comme Jonas sous ton ricin. Mais maintenant, Dieu t'appelle. Et s'il place devant toi des épreuves, ce n'est pas pour te punir, mais c'est pour perfectionner ta foi encore et surtout pour que son projet travers ta vie, puisse se réaliser. Ce n'est pas en restant sous son tamaris et en adorant le Dieu d'éternité à Beersheba qu'Abraham serait devenu le père de toutes ces nations qui croit en Jésus-Christ. Il fallait qu'il sorte de son arbre. Mon frère, ma sœur, peut-être ce message est pour toi cet après-midi, ou toi qui nous regardes sur ces vidéos. Dieu peut te dire maintenant, je veux faire de toi une bénédiction, mais quitte ton arbre, quitte la fraîcheur de cet arbre qui t'a tant béni. Et que va lui dire le Seigneur ? Il lui donne d'abord un rendez-vous. Va-t'en au pays de Morija. Abraham habitait à Beersheba, donc tout au sud de Canaan, un lieu agréable, le confort, la fraîcheur, les parfums. Et Dieu lui dit, tu vas aller à Morija. Morija, rien à voir. Morija, un rocher. Morija, des buissons. Morija, pas d'ombre. À Morija, pas de fraîcheur. Que le soleil et que l'épreuve. Mais c'est là que le Seigneur lui a donné rendez-vous. Morija, c'est aussi un lieu au cœur même du projet de Dieu. Morija, c'est au centre du pays de Canaan. C'est Jérusalem. Et c'est là aussi que le Seigneur veut le ramener, au cœur même de son projet pour sa vie, au cœur même de ses promesses. Et tout ceci, je le dis pour Abraham, et je le dis pour chacun d'entre nous, nous le comprenons aussi. Et puis, c'est un lieu précis. Il lui dit, sur l'une des montagnes que je te dirai. Et bien sûr, pour nous, quand il est question de cette montagne que je te dirai, dans notre cœur, nous pensons à une montagne en particulière qui est là, dans cette colline de Morija. Cette montagne a un nom, c'est le rocher de Golgotha. C'est à cet endroit-là que l'agneau de Dieu a livré sa vie pour nous. C'est à cet endroit-là que Dieu voulait ramener Abraham. Et c'est à cet endroit-là que Dieu veut aussi te ramener, mon frère, ma sœur, mon ami, à Morija. Oui, pas d'arbres, pas de fraîcheur, pas de bon parfum, qu'un rocher nu, que des buissons, pas d'ombrage, le soleil, l'épreuve. Mais c'est le lieu de ton alliance avec Dieu. Le lieu de la croix. Non pas dans une perspective de pardon des péchés, non pas dans une perspective de purification, de renouvellement, mais dans une perspective d'alliance avec ton Dieu. C'est là que le Seigneur voulait ramener Abraham et c'est là aussi qu'il veut nous ramener aux choses essentielles, aux choses centrales à la fois. Dieu et nous, nous et Dieu. Mais ce rendez-vous est accompagné aussi d'une parole difficile, d'une parole terrible. Prends ton fils. Ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Il est clair que Dieu, en demandant un holocauste, n'allait pas se contenter des troupeaux. Quand bien même Abraham lui aurait offert 1000 têtes de bétail, Dieu n'en voulait aucune. Quand bien même il lui aurait offert tout son or, toutes ses richesses, tout ce qu'il avait accumulé, il n'en voulait rien. Ce que Dieu voulait, c'était une seule chose, ce qui était précieux au cœur d'Abraham, son fils. Et peut-être l'insistance du Seigneur sur cette parole, ton unique, celui que tu aimes, est là pour dire aussi, Abraham, ne te trompe pas. Ce n'est pas l'enfant que tu as chassé dans le désert que je veux. Celui qui s'appelle Ismaël, mais celui que je veux, c'est bien Isaac. Ce ne sont pas tes œuvres, mais le fruit de mes promesses et de ta grâce dans ma vie. Ton unique, celui que tu aimes. Quelle parole qui nous rappelle Jésus-Christ aussi. L'unique du Seigneur, celui que Dieu aime par-dessus toutes choses. Mais, nous comprenons, ce n'est pas tellement Isaac que Dieu voulait. Ce que Dieu voulait avant tout, c'était le cœur d'Abraham. Connaître véritablement ce qu'il y avait dans le cœur d'Abraham. À quoi Abraham était-il le plus attaché ? À la parole de Dieu ou aux grâces reçues du Seigneur ? Si Abraham était attaché à Isaac plus qu'à Dieu, alors Abraham aurait fermé son cœur et il ne serait pas devenu cette source de bénédiction pour les nations. Si nous sommes attachés aux bénédictions reçues de Dieu, si nous sommes attachés à nos tamaris et à tout ce que Dieu a mis dans nos vies, nous fermons notre cœur. et les sources d'eau vive ne peuvent plus couler à travers nos vies. Mais en offrant Isaac, son fils, Abraham allait montrer à Dieu qu'il serait ce vase de bénédiction. Ce qu'Abraham devait démontrer, c'est que l'obéissance à la parole de Dieu est supérieure aux promesses de Dieu et à leur accomplissement. La promesse de Dieu, c'était Isaac. Et la promesse de Dieu, c'est que toutes les nations seraient bénies en Isaac, l'enfant de la promesse. Et voilà que Dieu demandait à Abraham de lui offrir Isaac en holocauste. Mais Seigneur, c'est contre ce que tu as dit. Si je t'offre l'enfant, il n'y aura plus de postérité. Et nous pourrions peut-être dire la même chose. Seigneur, ta promesse, tes bénédictions. Et maintenant, tu me demandes de te les offrir, de les abandonner, de les offrir en holocauste. Et Abraham dut comprendre que l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu est supérieure à toutes les promesses que Dieu nous a faites. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Alors ils sont partis. Abraham est parti de bon matin avec deux serviteurs et Isaac. Ils se sont mis en route et je pense qu'ils n'ont pas dû trop en parler à Sarah. Ça aurait été difficile à expliquer. On le comprend. Ils sont partis et ils ont marché. Ah, ce point. Si. Il dit qu'ils ont emporté du bois. Verset 3e. Il fendit du bois pour l'Holocauste. Ce n'est pas dans la Bible ce que je dis. Mais je me dis, et si Abraham avait coupé ses tamaris pour que ce bois, qui pour lui avait été un bois de rafraîchissement et de grâce, devienne le bois de l'Holocauste. Comme si nos propres bénédictions, nos propres richesses, ce qui fait la joie de notre vie, nous l'offrions au Seigneur en Holocauste. Mais ça, ce n'est pas marqué dans la Bible. Vous pourrez me dire, vous avez raison. Il y a eu 3 jours de marche. Ouh, vous imaginez ces 3 jours, le nombre de pas. Et puis, chaque fois qu'il avançait le massif de Morija qui se dessinait de plus en plus dans l'azur, là, et chaque pas qui le rapprochait de cet instant terrible, comment est-ce que Abraham a vécu ces moments? Il aurait pu se laisser gagner par le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Et il aurait eu 1000 fois la possibilité de rentrer chez lui, mais il n'a pas cédé au doute. Il n'a pas cédé à l'angoisse, à la peur. Il n'a pas même cédé à l'amertume. Savez-vous qu'on peut être obéissant tout en étant dans l'amertume, c'est vrai. Mais ce que nous voyons, c'est qu'Abraham s'est fortifié dans la foi. Avec cette conviction, c'est que Dieu pourvoira. Et c'est ce qu'il dira à Isaac, Dieu pourvoira. Et c'est ce qu'il proclamera sur la montagne. Dieu est capable de pourvoir. Il s'est fortifié dans la foi, étant convaincu que l'obéissance à la parole de Dieu n'empêcherait pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Il s'est fortifié, vous savez-vous pourquoi aussi? Parce qu'il connaissait Dieu. Parce qu'il était l'ami de Dieu. Parce qu'il connaissait le caractère de Dieu. Et il savait que Dieu serait capable de ressusciter. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux chapitre 11. Dieu est puissant même pour ressusciter des morts. Et l'homme qui arrive à Morija, ce n'est pas un homme accablé. Ce n'est pas un homme abattu. Mais c'est un homme résolu. C'est un homme avec une conviction. Et nous voyons au verset 5e, à la fin du verset 5, il va laisser ses serviteurs derrière lui. Et s'apprêtant à monter avec Isaac sur la montagne, il va leur dire, nous reviendrons auprès de vous. Et pour moi, ce n'est pas une espèce de parole à l'emporte-pièce, mais c'est une conviction. Nous reviendrons auprès de vous. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur le passage de Morija. Il nous faudrait vraiment développer ces choses en détail. Mais ce que nous comprenons, c'est qu'Abraham a dû aller jusqu'au bout de son obéissance. Nous savons qu'à un moment, l'ange de l'Éternel, nous le voyons au verset 11 et 12, l'ange de l'Éternel a appelé Abraham pour l'empêcher de mettre à mort son fils. Mais je voudrais vous faire remarquer que l'ange de l'Éternel n'est pas intervenu alors qu'Abraham et Isaac montaient sur la montagne. Il n'est pas intervenu alors qu'Abraham était en train de construire l'autel. Alors qu'Abraham était en train de mettre le bois sur l'autel, il n'est pas intervenu, pas même quand Abraham était en train de lier deux cordes Isaac. Il n'est pas même intervenu quand Abraham était en train de mettre Isaac sur l'autel. Mais il est intervenu lorsqu'Abraham, ayant pris le couteau, s'apprêtait à prendre la vie de son fils. C'est là qu'il est intervenu. C'est là qu'il a arrêté la main d'Abraham. Et Abraham a dû aller jusqu'au bout de son obéissance. Car voilà ce que Dieu voulait connaître, l'obéissance d'Abraham. Dieu connaissait déjà la foi d'Abraham. Nous le savons depuis Genèse 15, verset 6, Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dieu n'avait pas de problème, il connaissait la foi d'Abraham. Ce qu'il voulait connaître, nous le voyons dans la parole de l'ange au verset 12e, « Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Maintenant. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Abraham avait marché par la foi jusque-là, mais ce que Dieu voulait connaître, c'est son obéissance. L'obéissance est obligatoire pour accomplir le plan de Dieu à travers notre vie. Jésus lui-même s'est rendu obéissant. Jésus est l'homme de foi par excellence, mais il est aussi l'homme d'obéissance. Philippiens 2:8, il s'est humilié lui-même, notre Seigneur, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même, Paul dit, jusqu'à la mort de la croix, la pire des morts. Et ensuite, il continue, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. L'obéissance. Hébreux 5:8, il a appris bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ensuite, il fut élevé à la perfection et devenu, pour tous ceux qui l'obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Jésus a appris l'obéissance. Abraham devait apprendre l'obéissance comme il a appris la foi. Par la foi, il est devenu un homme béni. Par l'obéissance, il est devenu une source de bénédiction. Voilà ce que le Seigneur désire de toi. Non pas simplement connaître ta foi, mais connaître ton obéissance. Dieu est venu chercher Abraham de dessous ses tamaris pour le ramener au cœur de son projet, à Morija, sur cette montagne d'alliance. Et là, Abraham a manifesté l'obéissance, et Dieu l'a béni. Dieu s'est engagé dans un serment à multiplier sa postérité. Et nous lisons à la fin du verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, aujourd'hui, je ne te parle pas de foi, je te parle d'obéissance. Dieu vient te chercher. Répondras-tu à sa parole, à son appel? Me voici prêt à t'obéir, quelles que soient les choses que tu me demandes. Seigneur, me voici prêt à t'obéir. On va incliner nos fronts. Fermez nos yeux. Il y a beaucoup de jeunes parmi nous, avec peut-être le désir aussi, comme Abraham, de rechercher des tamaris, de se construire une vie pleine de fraîcheur, d'ombrage, de parfums agréables. Et le Seigneur te dit aussi déjà, le rendez-vous que je te donne est sur ce rocher dégarni, sans ombrage, plein de buissons et d'épines. Mais c'est là que je veux traiter alliance avec toi. Peut-être, mon frère, ma sœur, ressembles-tu en quelques points à Abraham? Et tu peux dire, j'ai connu comme Abraham mes épreuves, mes combats, mes oppositions. Et un jour, la paix est venue. Un jour, j'ai trouvé cette fraîcheur, ce repos. Et depuis, je suis là. Je suis là. J'invoque Dieu. Et si aujourd'hui, le Seigneur venait te chercher dans ta fraîcheur, dans ton repos, pour te ramener au cœur de ton appel et te dire, attends, Ce n'est pas là, ce n'est pas là que je t'attends, mais à Morija. Ce n'est pas là que je viendrai te parler, mais à Morija. Ce n'est pas là que tu seras une source de bénédiction, mais à Morija. Et le Seigneur te demande peut-être aujourd'hui de nouer avec lui, non pas simplement une alliance de foi, mais une alliance d'obéissance, en disant comme Abraham, « Me voici ». Dieu peut mettre en ce moment devant toi une épreuve. Cette épreuve n'est pas là pour te punir, pour te faire tomber. Cette épreuve est là pour perfectionner ta foi. Et si tu entends la voix du Seigneur t'appeler cet après-midi, alors je voudrais te permettre d'y répondre, de dire « Seigneur, je veux sortir de dessous mes arbres et aller là où tu m'appelles. Seigneur, je n'ai rien d'autre à t'offrir que ma vie, parce que Christ a déjà tout pourvu. Mais me voici, Seigneur, tel que je suis, pour t'obéir entièrement. » Et si quelqu'un, cet après-midi, sent que le Seigneur est en train de parler à son cœur d'une manière particulière, vous êtes retrouvé dans des choses ou une autre que nous avons pu dire, et tu entends la voix de Dieu, alors je voudrais t'inviter à lever ta main si tu désires répondre, à dire « Seigneur, me voici Jésus, me voici Seigneur, je suis prêt à sortir de dessous mes arbres pour aller là où tu veux me conduire. Seigneur, tu m'as enseigné la foi, je veux apprendre l'obéissance, je veux apprendre à aller jusqu'au bout avec toi. » Pour pouvoir devenir ce vase de bénédiction. Plusieurs ont levé leurs mains, d'autres se sont levés. Si encore quelqu'un va dire au Seigneur, oui, me voici, je suis prêt à faire ta volonté. Je suis prêt, Seigneur. Prêt à accepter l'épreuve que tu peux placer devant moi. Parce que je désire bénir comme tu m'as béni. Amen, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, mon Dieu. Oui, Seigneur, toi, tu es le bélier. Tu es le bélier qui a donné sa vie pour nous. Seigneur, là, sur cette colline de Morija, tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Tu as comblé nos vies. Nous pourrions avoir, Seigneur, ce désir de faire de nos vies des lieux ombragés, des lieux rafraîchis, et tu n'es pas contre cela. Nous sommes à la recherche de ce bonheur, c'est vrai, les uns les autres. Mais puissions-nous nous rappeler que l'endroit où tu scelles ton alliance se situe sur cette montagne de Morija. C'est là, Seigneur, que tu nous appelles à venir, à quitter la fraîcheur, à quitter les ombrages, à quitter les parfums agréables, pour venir là où il n'y a que buisson, là où il n'y a que chaleur, là où tu veux nous mettre à l'épreuve, là où tu veux tester notre cœur et notre obéissance. Je te prie pour ceux qui sont là cet après-midi, qui tournent leur regard vers toi. Tu sais à quelle étape de leur vie ils se trouvent, et tu sais ce que tu es en train de leur dire. Père, nous voulons faire toutes tes volontés. Nous voulons être obéissants à ta parole. Même lorsque nous disons, mais c'est contre tes promesses. Ça ne va pas dans le sens de tes promesses. Seigneur, nous voulons te montrer que nous sommes moins attachés à tes bénédictions qu'à toi-même. Apprends-nous cela. Apprends-nous l'obéissance, comme Christ a appris l'obéissance, comme Christ a montré de l'obéissance jusqu'au bout, jusque dans cette humiliation terrible de la croix. Que nous puissions aussi apprendre à être obéissants, afin que tu puisses te glorifier à travers nos vies. Seigneur, merci pour tous ceux que tu appelles cet après-midi. Merci peut-être pour les tamaris qui vont être mis à bas. Parce que nous voulons t'apporter tout ce que tu nous as donné, tout ce qui fait notre joie de vivre, nous voulons le mettre sur l'autel. Afin que toi, Seigneur, tu sois le premier. Béni soit ton nom, mon Dieu. Amen.